أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Donc la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation au degré le plus complet, le plus parfait soit accordé à notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons parler d'ajwid et de la prononciation des lettres en arabe, parce que en fait chaque lettre elle a un point de prononciation et il faut la prononcer correctement pour avoir une bonne récitation. Et si on maîtrise les lettres, alors c'est facile de réciter. Donc la langue arabe, c'est la langue la plus facile. Donc ça c'est selon des preuves du Coran, donc du Hadith, et c'est la meilleure des langues, c'est la langue des gens du paradis. Donc c'est facile, mais cela nécessite des efforts, bien sûr. Et une bonne méthode, et bien sûr, il faut la transmission orale. Donc la bonne méthode, c'est la transmission orale avec quelqu'un qui maîtrise. Donc la meilleure des langues, c'est la langue arabe, et quatre prophètes sont arabes, bien sûr. Tous les prophètes sont musulmans, ils ne sont pas tous arabes. Il y a quatre prophètes arabes, Hud, Saleh, Shu'aib, et Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prophètes. Donc les prophètes, ils ont plusieurs langues, mais leur religion est la même, qui est l'islam, l'unique religion valable, l'unique religion céleste. Tous, de Adam jusqu'à Muhammad, alayhi wa sallam, ils ont enseigné l'islam. Donc les gens au paradis aussi, dans le hadith, ils parleront l'arabe. Et le Coran, le dernier livre révélé, il est en arabe. Donc d'autres livres ont été révélés donc en hébreu, en araméen. Donc aussi, c'est les langues des prophètes, bien sûr, les vrais livres. Donc contiennent l'islam. Donc le seul qui n'a pas été falsifié, c'est le Coran, et il est en langue arabe. Donc là aussi, on fait une remarque importante, que faire attention aux soi-disant traductions dans lesquelles ils traduisent mot à mot, ils traduisent des expressions avec donc un sens qui n'est pas correct, parce que il y a des expressions en arabe comme en français et dans d'autres langues qui ont plusieurs sens, ou ils ont des sens figurés, etc. Donc, il faut connaître le sens originel du verset ou du hadith pour traduire. Donc, faire attention, donc le Coran, ça s'apprend pas, ou les hadiths dans les simples traductions, mais avec des gens dignes de confiance, qui ont une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète, et donc qui connaissent ce sens-là pour être traduit. Il faut connaître d'abord le sens pour traduire le sens. Donc, apprendre la langue arabe en détail, bien sûr, c'est pas un devoir sur chacun. Ce qui est un devoir, c'est de connaître bien la Fatiha, parce que la Fatiha est obligatoire sur chacun, bien la réciter. Parce que beaucoup, ils croient qu'ils connaissent parce qu'ils répètent comme ça à peu près. Mais ils se trompent sur plusieurs points. Sans cela, la prière n'est pas valable. Et les savants de l'islam, ils ont dit, il faut passer tout le temps qu'on peut pour avoir une récitation correcte de la Fatiha. Et cela, bien sûr, passe par apprendre les lettres, d'abord. Chaque lettre, comment on la prononce. Donc les autres sourates, c'est pas une obligation d'ordre personnel. Donc sachez que la science du tajwid est une obligation d'ordre communautaire. Apprendre les détails du tajwid, c'est une obligation d'ordre communautaire. Donc il convient donc de l'apprendre auprès de ceux qui sont qualifiés pour l'enseigner. En effet, la science ne s'apprend que par transmission orale auprès de gens dignes de confiance. Ce qui est obligatoire, en fait, donc le tajwid en détail, c'est pas obligé sur chacun, mais ce qui est obligatoire, c'est pour la Fatiha, c'est sortir chaque lettre de son point de prononciation et faire les prolongations de base qu'on dit. Mad tabi'i, prolongation naturelle de base, c'est-à-dire qui fait partie de l'origine du mot, sans lequel le mot il changerait de sens. Donc les prolongations comme ba, ta, ceux qui sont obligatoires, c'est ce qui est dans la Fatiha, bien sûr. Donc le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, man yuridillahu bi khayran yufaqihu fid din, innama al-ilmu bi ta'allum wal-fiqhu bi tafaqquh. Ce qui signifie, celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Certes, la science de la religion est par transmission orale, s'acquiert par transmission orale, rapportée par Al-Bukhari. Et Al-Bukhari a rapporté avec une chaîne de transmission ininterrompue jusqu'à Othman ibn Affan, que Allah l'agrée, qu'il a dit, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce qui signifie, fait partie des meilleurs d'entre vous, celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Khayrukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Et il a dit également, يَا أَبَا ذَرْ لَأَنْ تَغْدُوَ فَتَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ 100 رَكْعَةً وَلَأَنْ تَغْدُوَ فَتَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ 1000 رَكْعَةً. Ce qui signifie, ô Abu Dharr, si tu te déplaces et tu apprends une ayah du Coran, tu seras plus récompensé que si tu priais 100 rak'ah, des prières surrogatoires. Et si tu te déplaces et tu apprends un chapitre de la religion, tu seras plus récompensé que si tu pries 1000 rak'ah, des prières surrogatoires. Donc l'importance d'apprendre donc la science de la religion et aussi d'apprendre à bien réciter correctement. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim » ce qui signifie « Guérir la science de la religion est une obligation pour chaque musulman ». Donc fait partie de ce minimum indispensable qu'il faut apprendre, parce que ce n'est pas tous les détails qui sont obligatoires sur chacun de la religion, mais minimum indispensable concernant la croyance. On nous dit Dieu, que Dieu il est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il a créé l'espace, le temps, qu'il existe avant l'espace, le temps, qu'il ne ressemble pas à ses créatures, que tous les prophètes ils ont enseigné cette même croyance qui est l'islam, et comment préserver son islam puisqu'il annule des choses qui annulent l'islam, comme attribuer à Dieu la ressemblance aux créatures, se moquer de la loi de Dieu, rabaisser les prophètes, ou approuver cela ou aider à cela, ou rabaisser n'importe quelle loi de l'islam. Et dans ce cas, la personne doit dire les deux témoignages pour revenir à l'islam en délaissant la mauvaise croyance. Et il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Donc c'est ça qui fait que la personne revient à l'islam ou rentre en islam. C'est la même chose, comme il dit l'imam Nawawi dans son livre. Se convertir ou revenir à l'islam, c'est la même chose. C'est pas une condition de se doucher, de se laver ou de dire astaghfirullah. Au contraire, ce n'est pas utile tant que la personne elle est sur un cas de mécréance ou sur la mécréance à l'origine. Dans ce cas, elle doit dire en premier de les deux témoignages, et ce n'est pas une condition d'être devant un imam ou de circoncire ou d'être un jour particulier ou d'avoir ou changé de nom ou de parler l'arabe, parce que les deux témoignages c'est valable dans n'importe quelle langue. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Et ça c'est une remarque importante parce que on voit des gens qui veulent se convertir et dans des mosquées ils les obligent de répéter en arabe, cassé, n'importe quoi, sans comprendre les deux témoignages, alors qu'ils savent pas les prononcer correctement. Alors que c'est valable, bien sûr, dans n'importe quelle langue. Il n'est de Dieu que Dieu, ou je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu, ou Muhammad est le prophète de Dieu, Ahmad aussi c'est valable. Et comme disent les savants, s'il ne sait pas dire Muhammad ou Ahmad, il peut dire le surnom du prophète, connu donc à la Mecque, c'est Abul Ghassim. Et le messager de Dieu, Abul Ghassim, c'est le surnom du prophète, père de Ghassim, qui était son fils. Donc, et là, c'est valable. Donc, les savants ont cité cela, et Nawawi cite cela, d'ailleurs, dans ce même livre, qui s'appelle Rawdatut Talibin. Donc, la lecture soignée du Coran est un acte d'adoration, ibada, qui est un dhikr, et qui s'accomplit par la langue, en respectant certaines règles de récitation. Donc, il y a, bien sûr, il faut la sincérité, l'ikhlas, doit, donc la personne, dans tous les actes de bien, de toutes les manières, doit chercher exclusivement l'agrément de Allah. Donc elle fait ça en recherchant l'agrément de Dieu. Donc on dit en arabe faire les wajhillah. Donc et là on met en garde contre les mauvaises traductions où ils disent face au sujet de Dieu, et ça c'est pas digne de Dieu. Le mot wajh dans la langue arabe il a le sens, donc plusieurs sens. Et ça a le sens de l'obéissance au sujet de Dieu, chercher l'obéissance de Dieu, chercher l'agrément de Dieu. Donc aussi, même si la personne ne sait pas lire, si elle regarde juste les versets dans le mushaf, avec une bonne intention, elle est récompensée. Donc pour lire, il faut apprendre d'abord. Et la priorité, bien sûr, c'est la fatiha. Et bien sûr, donc on a dit là il faut respecter les règles, la sincérité, et bien sûr, ne pas commettre d'erreurs de récitation. Il faut une bonne récitation. Il y a trois types d'erreurs de récitation. Celui qui change le sens du mot, cette erreur est interdite. Haram, comme si quelqu'un dit an'amti alayhim au lieu de dire an'amta alayhim. Changer donc les voyelles, le haraka, on dit, peut changer bien sûr le sens. Il y a des erreurs qui ne changent pas le sens, mais c'est interdit, bien sûr, pour celui qui le fait délibérément. Donc, comme de dire yaka nista'in au lieu de dire nasta'in. Il dit ni nista'in. Ça, c'est changer. Donc, c'est une erreur mais qui ne change pas le sens, mais c'est interdit aussi pour celui qui le fait délibérément. Donc celui qui annule le sens du mot aussi, l'erreur qui annule complètement, cette erreur est interdite aussi. Exemple, dire « allazina » au lieu de dire « allavina ». Par exemple, si on sort pas bien, on touche pas avec, pour faire le vel, le bout de la langue, avec les incisives supérieures, il y en a, ils laissent la langue en arrière, ils disent « allazina ». Et après, il y en a, ils disent « Bon, c'est mon accent, non, ça n'a rien à voir avec l'accent en fait. Il y a des gens de différents pays, même des pays non arabes, ils savent bien réciter parce qu'ils ont appris. Il y a des gens qui viennent des pays arabes, ils savent pas réciter parce qu'ils n'ont pas appris. C'est pas parce qu'on vient forcément d'un pays arabe qu'on sait réciter. Donc l'erreur de récitation se manifeste dans trois cas. Changer les harakat, la fatha, la dhamma, la kasra. Donc comme on l'a expliqué, faire un mad moindre que le mad tabi'i, naturel, obligatoire de deux temps. Comme on a dit aussi, il faut le mad, la prolongation originelle du mot, sans lequel le mot il changerait de sens. Ça, ne pas la faire, c'est interdit. Prononcer une lettre hors de son point de prononciation. Comme l'exemple qu'on a vu de dire, au lieu de dire Allavina, dire Allazina. Donc pour maîtriser la science du tajwid, il faut la recevoir par transmission orale des savants et de personnes dignes de confiance. Donc le Coran a été révélé au prophète avec cette manière de récitation, dite qira'at. Donc ça c'est les sept récitations confirmées et fiables. Donc différentes manières. Donc le prophète, alayhi salam, récita et enseigna le Coran aux compagnons, parmi lesquels Ubay ibn Ka'ab, qui était le plus fort dans la récitation, selon le hadith, Abdullah ibn Mas'ud, Zayd ibn Thabit, Ali ibn Abi Talib. Donc, et le prophète lui-même, il a reçu de Djibril. Djibril, donc, il a enseigné au prophète comment réciter. Et Djibril, lui, Dieu a créé, donc ils ont dit les savants de l'islam, il a vu écrit le Coran dans la table préservée, et puis, Dieu a créé une voix, il a entendu la voix, il a enseigné au prophète. Donc Dieu a créé une voix de cette récitation. Parce que un point très important là, c'est que les langues, la langue arabe ou autre langue, ça change, ça rentre en existence. Quand on parle, c'est les lettres succèdent, des sons qui se succèdent. Donc un son disparaît, un autre rentre en existence. C'est ça qui fait la voix. Donc tout ça c'est créé, tout ce qui rentre en existence est créé par Dieu. Chaque instant, chaque perception est créée par Dieu, le seul créateur de toutes choses. Toutes les langues, c'est créé par Dieu. Donc c'est pour cela, il est important de savoir, comme il a dit l'imam Abu Hanif, un grand savant de l'islam, il a dit « Wallahu yatakallamu bi kalamin la yushbu kalamana, nahnu natakallamu bil alati min al makharij wal huruf, wallahu mutakallimun bila alatin wala harf. » Il a dit donc Dieu parle d'une parole qui n'est pas comme la nôtre. Nous, nous parlons avec des points de prononciation et de lettres, avec une langue, etc., des lèvres, et Dieu parle sans langue ni lèvres. Subhanahu wa ta'ala, sa parole n'est pas une langue arabe ni une autre langue, ne ressemble pas à la parole des créatures. Et ça, c'est un point très important. Donc, attribuer à Dieu la ressemblance aux créatures, c'est du shirk. N'est pas un musulman, quelqu'un, même s'il connaît tout le Coran par cœur, celui qui croit que Dieu parle avec une langue ou des lettres, que ce soit langue arabe ou autre, celui qui croit que Dieu c'est une forme, une quantité, ça c'est vraiment, il n'a pas connu Dieu. Et ça, c'est important. Allah dit dans le Coran, وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. C'est-à-dire, ils ont dit, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. C'est-à-dire, l'islam est la seule religion conforme à la raison. Et la raison confirme catégoriquement que tout ce qui est une forme, une quantité, une localisation, tout ce qui change d'un état à un autre, tout ce qui est sujet au changement, tout ce qui lui advient des choses, c'est forcément une créature. Et le créateur, bien sûr, n'est pas concerné par cela. Donc, le mot Coran, il a deux sens. On dit bien aussi, bien sûr, on dit bien le Coran, c'est la parole de Dieu. Parce que le mot Coran, il a un premier sens qui est l'attribut de parole de Dieu, qui n'est pas des sons, n'est pas une langue arabe ou autre. Donc, il a deux sens. Deux vrais sens. Deux sens véritables. Le premier sens du mot Coran, c'est la parole propre à Dieu, qui ne ressemble pas à la parole des créatures, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui ne change pas, qui n'est pas une langue arabe, une autre langue. Il a un deuxième sens, qui sont les termes révélés qu'on nous récitons, que nous apprenons, qui sont en langue arabe, qui sont inscrits dans le mushaf. Donc ces termes-là, bien sûr, ce n'est pas l'attribut de parole de Dieu, car Dieu parle sans langue ni lèvres. Mais, on dit, c'est la parole de Dieu. Donc, ça c'est le deuxième sens. Donc on dit que c'est la parole de Dieu, parce que c'est une expression de l'attribut de parole de Dieu. C'est une expression de l'attribut de parole de Dieu. Comme Dieu le créateur du monde, et quand c'est marqué sur un papier ou sur un cadre, on dit c'est marqué Allah, c'est marqué Dieu. On dit bien c'est marqué Allah. Mais les lettres, c'est pas Dieu lui-même. Ces lettres-là, c'est pas le créateur du monde. Mais on dit bien, c'est marqué sur le cadre Allah. Ça, parce que c'est une expression qui désigne le créateur. Donc l'expression et ce qu'elle désigne, c'est deux choses différentes. Comme on dit, le feu, c'est une réalité, Et le feu marqué sur un écrit, c'est une expression qui désigne la réalité. Donc le mot Coran, donc c'est important à retenir. Donc ça c'est pour ça. Donc ça c'était les plus grandes discussions entre les sunnites, les quatre écoles, donc ceux qui sont suivis par les quatre écoles et la majorité de ceux qui se réclament de l'islam, et contre les Mu'tazila qui nient l'attribut de parole de Dieu, et contre les Mushabbiha, les Mujassima, ceux qui attribuaient Dieu leur ressemblance au Créateur. C'était les débats contre ces deux sectes-là, ceux qui nient l'attribut de parole de Dieu et ceux qui attribuent à Dieu les sons et l'être. Les deux sont égarés, ils sont dans l'égarement. Les sunnites confirment pour Dieu l'attribut de parole, qui n'est pas des sons, qui n'est pas des lettres, qui n'est pas une langue arabe, une autre langue qui ne ressemble pas à la parole des créatures. Donc la langue arabe s'est créée par Dieu, et toutes les langues s'est créées par Dieu. Donc voilà, il est devenu clair que le mot Coran, il a deux sens. Le premier sens, ça désigne l'attribut de parole de Dieu, qui n'est pas des sons ni des lettres, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Et c'est pour cela qu'on dit le Coran est l'attribut de parole de Dieu, qui n'est pas créé. Et un deuxième sens, véritable, qui est les termes révélés, qui sont en langue arabe, et qui sont créés par Dieu, qui ont un début, et qui sont une expression de l'attribut de parole de Dieu, et qu'on peut appeler aussi tout court la parole de Dieu, parce que c'est une expression de l'attribut de parole de Dieu. Donc, cette manière de réciter a été transmise du prophète, alayhi salam, que lui-même il a reçu de Djibril. Et comme on l'a dit, attribuer à Dieu le son, les lettres, ben, c'est de l'égarement, ça contredit le tawhid, l'unicité de Dieu, selon l'unanimité des savants sunnites. Et le prophète, alayhi salam, aussi, important de le savoir, il a dit, Al-Qur'an imma hujjatun laka am alayk. Le Qur'an est une preuve, ou pour toi, ou contre toi. C'est pas parce que quelqu'un il a une belle voix, une belle récitation, il est très connu dans le monde, que forcément, il est sur la bonne voie. Parce que le prophète, il a parlé de secte, il a dit, يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يَتَجَاوَزُوا حَنَاجِرَهُمْ. Ils récitent le Coran, ils ne dépassent pas leur gorge. Ils ont une voix, ils maîtrisent la récitation, mais ils ne suivent pas la croyance du Coran, et c'est dit clairement dans le Coran. Allah Ta'ala dit, يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. C'est-à-dire, Coran, pour certains, Dieu fait que ce soit la cause de guider de beaucoup, et pour beaucoup aussi, Dieu fait que ce soit une cause d'égarement, parce que ils vont lire les versets non explicites, mutashabih, ils vont les interpréter selon leur passion, selon leur mauvaise croyance. Et ça, c'est dit dans le Coran. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. C'est-à-dire, le Coran, Dieu l'a révélé avec des versets explicites qui sont la base du livre. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Et d'autres non explicites, mutashabih, donc ils nécessitent une interprétation correcte avec des règles conformes à la langue arabe et conformes aux autres versets parce qu'il n'y a pas de contradiction. Mais Dieu nous met en garde contre les gens qui ont un mauvais penchant dans le cœur, une mauvaise croyance, et que eux, ils utilisent les versets non explicites pour égarer les gens et pour leur donner une mauvaise, en leur donnant une mauvaise interprétation. Alors les grands compagnons comme Abdullah ibn Abbas, ils ont interprété la bonne manière conforme aux autres versets. Et les grands savants des quatre écoles aussi. Comme Abdullah ibn Abbas, il a expliqué wassamaa banaynaha bi'aydin, c'est-à-dire Dieu a créé les cieux par sa puissance, liyad par la puissance, n'est pas par la main ni l'organe ni tout ce qui est attribué des créatures. Le grand imam al-Bukhari, il a expliqué kullu shay'in halikun illa wajha. C'est-à-dire, toute chose sera anéantie, sauf son wajh. Le wajh, ici, il a dit mulk, souveraineté de Dieu. Il n'a pas dit face, comme on trouve dans les certaines traductions. Les grands savants, ils ont expliqué ar-Rahman wa al-Arsh istawa, c'est-à-dire, Dieu domine le trône. Istawa, c'est dominer, maintenir en existence, préserver. C'est pas comme certains, ils disent s'établir ou s'asseoir. Et ça, c'est pas digne de Dieu, parce que Dieu a créé le trône, il existe avant le trône, il n'a pas besoin du trône. Avoir besoin, être localisé, quantifié, c'est un attribut des créatures, catégoriquement. L'attribut à Dieu, bien sûr, c'est un blasphème clair. Et dans ce cas, la personne doit délaisser, bien sûr, la mauvaise croyance en prononçant les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Donc, le prophète, alayhi salam, il a enseigné aux compagnons. Les compagnons ont transmis le Coran à des grands imams connus sous le nom de qari, récitateurs, dont chacun a eu de grands élèves. Donc, chacun, il a eu de grands élèves. Donc, parmi ces grands imams qui étaient leurs élèves, il y a Nafi'a. Ces deux grands disciples sont Warsh et Qalun, Asim, et parmi ces disciples, il y a Hafs. Donc c'est la récitation la plus répandue dans le monde musulman. Le tajwid, Le mot tajwid vient du verbe jawada, qui signifie faire ce qui est bon. Donc, définition, lire le Coran avec une application rigoureuse des règles. Donc, c'est la définition dans le domaine du tajwid. Donc, lire le Coran en appliquant correctement les règles. Réciter chaque lettre de son point de prononciation et donner à chaque mad prolongation sa juste valeur. Donc, parmi les spécialistes du tajwid, il y a Ash-Shatibi et Al-Jazari. Donc, ils ont écrit dans cette science-là, du tajwid. Le tartil, définition, c'est réciter de manière harmonieuse, de sorte que le flux ne soit pas saccadé. Donc, c'est la prononciation correcte des lettres et la connaissance des modalités d'arrêt. Donc, les points d'articulation des lettres, makharijul huruf. Donc, ce chapitre concerne les parties sollicitées des lèvres jusqu'au fond de al-halq, la gorge, vers la poitrine lors de la production du son défini selon les savants du tajwid comme étant le souffle que l'on entend. Donc il y a cinq endroits essentiels de sortie des lettres, dites makharij. Al-jawf, vide interne de la bouche et de la gorge. Al-halq, la gorge, le larynx. Al-lisan, la langue. Al-shafatan, les lèvres. Et al-khayshoum, extrémité du nez d'où elle sort le son de la runna. Il y a 17 points de prononciation chez la plupart des savants du tajwid. C'est l'avis de Al-Jazari et de Khalil ibn Ahmad. Pour Sibawayh, donc il y en a 16. Donc c'est un spécialiste de la grammaire et de la langue arabe. Pour lui, Al-Jawf n'est pas un makhraj. C'est là d'où sortent les prolongations en fait. Et donc le vide interne, on a dit. Et les lettres de Al-Mad ne sont pas des lettres. Donc selon lui. Donc il y en a 16. Pour Al-Farra, il y en a 14. Il ne compte pas Al-Jawf et considère que le Noun et le Ra sortent d'un même makhraj. À vrai dire, donc, il y a un makhraj pour chaque lettre, soit 29 points de prononciation. Donc, 17 ou autres, c'est pour dire les makhrajs, les points de prononciation proches, en fait. Il les regroupe. Mais en réalité, pour chaque lettre, vraiment, il y a un point de prononciation. C'est ce qui fait qu'elles sont différentes. Donc, le vide interne à la bouche, al-jawf, il compte un point de prononciation pour trois lettres, qu'on appelle les voyelles longues dites lettres de al-mad, de prolongation. La bouche englobe la langue, al-lisan, les lèvres, al-shafatan, et le larynx, al-halq. Donc, il y a alif précédé d'une lettre avec fatha, comme ba, le waw, sakina précédé d'une lettre avec dhamma, comme bou, et le ya, sakina, précédé d'une lettre avec kasra, donc c'est pour la prolongation ces trois lettres, comme bi, donc le ya ici prolonge. Le larynx, la gorge, al-halq, il compte trois points de prononciation pour six lettres rassemblées dans les initiales de la parole. Akhi haka ilman hazahu ghayru khasiri. Donc le, ça veut dire akhi, donc il y a le a, haka, le ha, ilman, le a, hazahu, le ha, ghayru, kha, le ra, khasiri, le kha. Donc du fond de al-halq, al-hamza et al-ha. Donc ha, hu, hi, a, ou, i. Donc d'abord le a, ou, i, après le ha, hu, hi. Du milieu de al-halq, a, ou, i, i'a, ha, hu, hi, ih. Donc pour s'entraîner aux lettres, on rajoute un i. Ih, i'a, ih. Donc du haut de al-halq, al-ghayn et al-kha. Ra, rou, ri, ir. Kha, khou, khi, ir. Donc c'est là, on est plus le plus proche de la langue, bien sûr. Ra, rou, ri, ir. Kha, khou, khi, ir. La langue, al-lisan, il compte 10 points de prononciation pour 18 lettres. Donc le fond, il y a le fond, le milieu, le côté et l'extrémité devant. Le fond de la langue avec la partie qui lui convient du palais supérieur, le qa et le ka. Qa, c'est dans le palais mou en fait, c'est plus profond. Donc qa, qu, qi, iq. Qa, qu, qi, iq. Ka, qu, qi, ik. Donc on dit pas ka comme en français en fait, parce que c'est la lettre parmi, on verra les caractéristiques, c'est pas qu'elle, c'est qu'elle est pas emphatique. Ka, qu, qi. Ik. Le milieu de la langue avec la partie qui lui convient du palais supérieur. Donc le ja, sha, ya. Ja, donc on verra parmi ces caractéristiques, c'est donc le ja, c'est qu'on ne le prononce pas, on prononce pas ja. Ça coupe donc le souffle. Ja, ju, ji, ij. Donc en arabe on dit pas ja, on dit ja, ij. Ja, ju, ji. Sha, shu, shi, ish. Pareil, en arabe on dit pas sha comme en français, donc elle est pas emphatique. Et ça viendra dans les caractéristiques. Sha, shu, shi, ish. Ya, yu, yi, i. Ya, yu, yi, i. Donc on dit pas ya comme en français, on dit ya. Parmi ces caractéristiques aussi qu'elle est pas emphatique. Le côté de la langue en contact avec les molaires supérieurs. Dha, dhu, dhi. Id. Dha, dhu, dhi. Adha, adhu, adhi. Le bout de la langue en contact avec la partie qui lui convient du palais supérieur. La, na, era. La, lu, li. Il. Là aussi, on ne dit pas la. Elle n'est pas emphatique. La, lu, li. Na, nu, ni. Là aussi, on ne dit pas na, comme en français. Na, nu. On dit na, nu, ni. Donc, avec une langue plus en arrière. Ra, ru, ri. Ra, ru, ri. Arra, arru, arri. Arra, arru, arri. Le bout de la langue en contact avec le palais proche des incisives supérieures. À la racine des incisives, en fait. Da, ta, to. Da, du, di. Id. Ta, tu, ti. It. Ta, tu, ti. It. Ta, tu, ti, it. Donc, da, du, di, id. Ta, tu, ti, it. Ta, tu, ti, it. Le bout de la langue en contact avec le bout des incisives supérieures. Va, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ne pas laisser en arrière sinon ça fera za. Va, zu, vi. Va, zu, vi. Fa, su, fi. If. Va, zu, vi, iv. Va, zu, vi, iv. Fa, su, fi. If. Va, vous, vri, if. Le bout de la langue contre l'intérieur des incisives inférieures en bas. Sa, su, si, is. Sa, su, si, is. Assa, assu, assi. Sa, su, si, is. Assa, assu, assi. Za, zu, zi. Iz. Azza, azu, azi. Les lèvres, ashafatan, elles comptent 2 points de prononciation pour 4 lettres. Lèvres inférieures en contact avec l'extrémité des incisives supérieures. Fa, fu, fi, if. Fa, fou, fi, if. Là aussi, on dit pas fa, comme en français. Fa, fou, fi, if. Point entre les deux lèvres en s'ouvrant. Oua, ou, oui. Oua, ou, oui. Donc, on dit pas oua. Donc, c'est pas emphatique, c'est pas grave. Oua, ou, oui. Point entre les deux lèvres en se fermant. Ba et ma. Ba, bou, bi. Ba, bou, bi. Ib. Ma, mou, mi. Im. Ma, mou, mi. Le fond du nez, al-khayshoum. Donc c'est le point de prononciation de la runna, la nasalisation, qui est un son qui sort du raishum, donc le fond du nez. Le son de la runna apparaît au niveau des lettres mim et nun quand elles sont doublées. Exemple, lamma, inna, inna, lamma, inna. Donc il y a une partie qui sort du nez. Lamma, inna. Donc on a vu les points de prononciation des lettres, et les lettres, ils ont des caractéristiques. Chaque lettre a une ou des caractéristiques. La vue le plus fort, c'est qu'il y a 17 caractéristiques, dont 5 qui ont leur opposé. Al-hams, le souffle. Du point de vue de la langue, c'est le chuchotement. Donc les lettres de Al-hams sont appelées ainsi car le souffle sort avec, puisqu'elles sont faibles au niveau de leur point de prononciation. Elles sont au nombre de 10, rassemblées dans la parole de Al-Jazari, فَحَفَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ. Le fa, donc if, et le souffle. Ih, if, ih, ish, ich, is, is, ik, it. Al-jahr, la sonorité. Du point de vue de la langue, c'est le fait de parler à voix haute. Les lettres de Al-Jahr sont appelées ainsi car elles empêchent le souffle, c'est-à-dire beaucoup de souffle, de sortir, car elles sont fortes et on appuie sur leur point de prononciation au moment de la prononciation, du fait qu'elles sont fortes au niveau de leur point de prononciation. Donc ce sont les 19 lettres autres que celles de l'Hams, donc c'est l'opposé de l'Hams. Donc on a dit l'Hams c'est le Fa, le Ha, le Tha, le Ha, Sha, Kha, Sa, Sa, ka et ta. Donc autre que cela, c'est al-jahr, la sonorité. Donc al-ham, c'est beaucoup de souffle et pas beaucoup de souffle al-jahr. Ashidda, le tonus. Du point de vue de la langue, c'est la force. Les lettres de ashidda sont appelées ainsi car elles coupent le son au moment de leur prononciation. Elles sont au nombre de 8. Rassemblé dans la parole d'Al-Jazari, Ajid Qatin Bakat. Le A, Ja, Da, Qa, Ta, Ba, Ka, Ta. Donc elle coupe le son. Al-Rikhawa, la faiblesse. Donc c'est autre que les lettres de Ashidda. Les lettres de Al-Rikhawa sont appelées ainsi car le son se diffuse aisément en les prononçant. Donc il y a 29 moins 8. 21 lettres, dont 5 qui ont une position intermédiaire entre Al-Rikhawa et Ashidda. On les appelle les lettres de Al-Mutawassit, rassemblées dans la parole de Al-Jazari, Lin Umar. Le Lam, le Nun, La, Na, A, Ma, Ra, Lin Umar. Al-Isti'la, l'élévation. Elles sont appelées ainsi car l'arrière de la langue s'élève vers le palais en les prononçant. Elles sont au nombre de 7 rassemblées dans la parole de Al-Jazari. Khussa dhartin qiv. Le kha, donc c'est emphatique en fait. Sa, dha, gha, ta, qa, dha. Parmi ces lettres, les 4 les plus fortes sont le sa, Dha, Ta, Va, qui sont les lettres de Al-Itbaq. Al-Istifal, donc c'est l'inverse, l'abaissement. Il y a donc 29 moins 7, 22 lettres pour lesquelles l'arrière de la langue est abaissé par rapport au palais. Donc ça fait un son qui n'est pas emphatique. Al-Itbaq, l'occlusion. Donc ces lettres sont appelées ainsi en raison de l'occlusion d'une partie de la langue sur le palais supérieur. Donc elles sont au nombre de 4. Sa, Dha, Ta et Va. Sa, donc c'est très très proche. Le Dha, Donc c'est collé le ta et le va. Al-infitah, donc c'est l'inverse, le contraire, ce sont les 25 autres lettres pour lesquelles il n'y a pas de itbaq. Al-idlaq, par référence au bout de la langue en fait. Ces lettres sont appelées ainsi car elles sortent ou bien du bout de la langue ou bien des bouts du bout des lèvres. Fa, ra, ma, na, la, ba. Donc c'est rassemblé dans six lettres rassemblées dans la parole de Al-Jazari. Farra min lub. Donc un mot d'origine arabe de plus de trois lettres contient forcément une de ces six lettres. Al-ismat, les 23 lettres qui restent autres que celles de al-ifdaq. Donc un mot de plus de trois lettres ne peut donc être construit uniquement avec des lettres de al-ismat. Il y a forcément des lettres de al-ifdaq du bout de la langue. As-safir, le sifflement, elles sont appelées ainsi car ce sont les trois lettres dont le son est accompagné d'un sifflement semblable à celui d'un oiseau. Sa, za, sa. Sa, za, sa. Al-qalqalah. Donc ces lettres sont appelées ainsi car quand elles sont prononcées sakina, elles ont une forte tonicité. Ainsi on les prononce en ouvrant le point de prononciation. La forte tonicité est plus claire sur l'arrêt que sur la liaison. Donc elles sont réunies dans ces lettres-là. Qutbu jadin. Iq. Itu. Ib. Ij. Id. Pour le qa et le ta, la qalqala tend vers la dhamma. Pour le ja et le ba et le da, la qalqala tend vers la kasra. Iq. Itu. Ib. Ij. Id. Alin, l'assouplissement. Ces lettres sont appelées ainsi car elles sortent en douceur, facilement, sans avoir besoin d'un effort. Elles concernent deux lettres pour lesquelles on fait un mad de deux harakas. Le waou sakina, le ya sakina dans le cas où elles sont précédées d'une lettre avec fatha. Yaoum alayhim. Yaoumi alayhim. Al-inhiraf, la divergence, il concerne deux lettres, lam et ra. Elles sont appelées ainsi car le son diverge vers le bout de la langue. La, ra. Le at-takrir, la répétition, concerne une lettre ra. Elle est appelée ainsi car elle se répète sur la langue, surtout quand elle est doublée avec shadda. Il est indispensable de ne pas faire apparaître cette répétition. Donc on dit ar-ra. Il faut que ce soit tenu. Ar-ra. C'est pas ar, ar, arra. Ce soit assez souple que ça fait pas vibrer la langue en fait. Arra, arru, arri. Arra, arru, arri. Attafashi, la diffusion, concerne une lettre sha. Elle est appelée ainsi car le son se diffuse et se disperse au niveau du point de prononciation. Al-istitala, le prolongement, concerne une lettre, dha. Elle est appelée ainsi car le son de la lettre se prolonge au niveau de son point de prononciation jusqu'au point du lam. C'est la caractéristique de la lettre dhad. Dha, dhu, dhi. Donc, comme on a dit, ce qui est obligatoire, c'est que chaque lettre sort de son point de prononciation et qu'il y a la prolongation de base, originelle du mot. Mad tabi'i. Le reste, les règles comme la nasalisation, la runna et les règles qu'on va voir, donc ce n'est pas obligatoire sur chacun en fait. Mais c'est ce qui donne le plus de récompenses, c'est la manière que le prophète il a enseigné de réciter avec ces règles-là. Donc il y a la règle de la runna, la nasalisation. Donc définition, al-runna, la nasalisation, c'est un noun dissimulé qui sort du fond du nez, khayshoum. Donc ça sort du fond du nez. Les endroits où elle est requise, au niveau du noun mushaddada, tel que inna, inna, ou bien mim mushaddada, tel que lamma, lamma. Donc une partie du son sort du nez. Au niveau de la mim sakina, suivi d'un ba, tel que ambih, ambih. au niveau du nun sakina ou de tanwin suivi des lettres autres que celles de al-halq ou lam et ra. Donc le tanwin est une nun sakina détectée à l'ouïe, mais pas à l'écrit. La runna se fait sur une durée de deux haraka. Par convention, une haraka équivaut autant de que dure la flexion d'un doigt. Les règles de la nun sakina et du tanwin. Le tanwin est la nun sakina qui vient à la fin du mot. On l'entend, mais on ne l'écrit pas. Il se prononce dans la liaison, mais non pas en fin de parole. Bun, ton. Donc c'est ça le tanwin. Donc quand on s'arrête, on ne le prononce pas. La nun sakina, elle vient dans le mot ou à la fin du mot. Elle est observable au niveau de l'expression, l'écriture, la liaison et l'arrêt. Alors que nun, c'est bien écrit. Alors que le bun, ton, ben c'est pas écrit, mais on l'entend. Donc le nun sakina et le tanwin obéissent à quatre règles du tajwid. Al-idhar, la clarté, on les montre. Dans la science du tajwid, al-idhar consiste à sortir chaque lettre de son makhraj sans avoir recours à la nasalisation. Il s'agit de la prononciation claire de la lettre sans nasalisation. Le point de prononciation makhraj du nun est le bout de la langue contre le palais proche des incisives supérieures. Na, nu, ni. Donc cette règle concerne six lettres qui sont les lettres du larynx, al-halq. Ha, a, a, ha, ra et kha. Exemple, min ilah. Donc on fait pas de nasalisation de runna, on montre clairement min ilah. Min khawf. Pourquoi? Parce qu'après le nun, il y a le kha, qui fait partie bien des six lettres de al-halq. Min ilah. Après, il y a le a, qui fait partie des lettres de al-halq de la gorge. Idram. Donc il y a une règle aussi qui s'applique au nun sakina au tanwin qu'on appelle idram. Selon la langue arabe, c'est le fait d'entrer une chose dans une autre. Dans la science du tajwid, al-idram consiste à faire entrer une lettre dans celle qui la suit immédiatement, à condition que la première soit sakina et la suivante soit mutaharrika avec une voyelle dhamma ou fatha ou kasra. Ainsi, en appliquant le idram, on aura une seule lettre doublée, mushaddada. Il s'agit donc d'une assimilation. En effet, les deux lettres fusionnent alors. Ils sont prononcés comme une seule dans la seconde avec une certaine intensité. Donc le idram trouve sa justification dans le fait qu'il serait fastidieux de prononcer distinctement deux lettres à la suite proches l'une de l'autre. Donc c'est pour faciliter en fait. Le idram permet de faciliter la prononciation par l'assimilation de la première lettre à la seconde. Donc dans ce chapitre, le idram concerne six lettres rassemblées dans la parole de Al-Jazari. Yarmaloun. Ya, ra, mim, la, waw, noun. Yarmaloun. On distingue deux types de idram. Le idram sans runna, dit kamil, complet, c'est le idram complet. Il n'y a pas de runna. Concerne lam et ra. C'est un idram complet et total. La noun et la runna disparaissent du fait de la proximité des points de prononciation. Makharij. Par exemple, man, lam, ça prononcera en appliquant la règle mallam. Ça y est, on n'entend plus le nom du tout. Mais on double le lam. Mallam. Autre exemple. Min rabbikum se prononce mir rabbikum. Mir rabbikum. On n'entend plus du tout le nun, mais on double le ra. Mir rabbikum. Il y a le idram avec runna maintenant. Concerne les quatre autres lettres rassemblées dans la parole de Al-Jazari. Yanmu. Le ya, le nun, le mim et le waw. Donc, s'ils viennent après la nun sakina ou le tanwin. Dans ce cas, le tajdid le doublement, n'est pas complet. Donc, le idram est qualifié de partiel car la première lettre nun est assimilée et disparaît alors que le son lui correspondant, la runna reste maintenue, persiste. Exemple. Man yakoum se prononce Man yakoum. Donc on prononce pas vraiment man et on l'enlève pas du tout, mais c'est entre les deux. On remplace par une runna. Man yakoum. Ceci ne vaut que dans le cas d'une liaison. À l'intérieur d'un mot, on ne fait ni idram ni runna afin de ne pas tomber dans la confusion avec d'autres mots qui, à l'origine, contiennent la même lettre doublée. Donc on fait cela quand il y a deux mots qui se suivent, en fait. Le premier se terminant avec nun ou tanwin, et l'autre commençant par le ya ou le nun ou le mim ou le wa. Al-iqlab, la transformation. Selon la langue arabe, c'est le fait de transformer quelque chose de son état. Dans la science du tajwid, al-iqlab consiste à transformer une lettre ou une autre avec ikhfa, dissimulation pour tenir en compte la runna. Cela consiste donc à substituer une lettre à une autre. La nun sakin et le tanwin devant un ba se transforme en mim dissimulé. Il n'y a ni idhar ni idram, mais il y a une runna de deux haraka. Donc min ba'di se prononce mim ba'di, mim ba'di. Au lieu de dire min ba'di, mim ba'di, mim ba'di. Anbi'hum se prononce anbi'hum, anbi'hum. Donc on a fait un iqlab avec runna. Anbi'hum. L'iqlab ne s'applique qu'avec la nun sakina suivie d'un ba dans un mot ou alors d'une liaison. Al-ikhfa, la dissimulation. Selon la langue arabe, donc c'est l'ikhfa, c'est dissimulé. Dans la science du tajwid, l'ikhfa consiste à prononcer une lettre de façon intermédiaire entre l'idhar et l'idram, sans tajdid avec runna, sans doublement en fait. C'est donc l'émission dissimulée de la nun et du tanwin entre la prononciation claire et l'assimilation. Le son de la nun est clair mais nasalisé. Les lettres concernées sont celles qui n'ont pas été précédemment citées. Autrement dit, les 15 lettres qui ne sont ni celles de Al-Halq, ni Ba, ni les lettres de la parole Yarmalun. Donc autre que Ba, et autre que les lettres de Yarmalun. Donc ces 15 lettres sont les initiales du vers de poésie de Al-Jazari. Sif dha fana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiba zid fi tuqa dha' zalima. Donc c'est les initiales, donc c'est les 15 autres que ceux qui n'ont pas été cités. Donc man kan se prononcera alors man kan. Parce que après le nun, il y a un kef qui n'est pas des lettres dans Yarmalun ni dans les 6 lettres de Al-Halq, de la gorge. Donc on va faire un ikhfa et dissimulation. Au lieu de dire man kan, on va dire man kan sans shadda. Min su va être prononcé min su, min su. Les règles de lam sakina et mim sakina. Donc, règle relative à la lam sakina. La lam sakina se présente sous 4 formes. Lam de l'article défini. Al. Donc, lam du nom. Lam ul ism. Lam du verbe. Lam ul fi'l. Et lam de préposition. Lam ul harf. Lam de l'article. Lam obéit au idhar, clarté, quand elle est suivie d'une lettre qamariya. Les lettres qamariya sont celles réunies dans la phrase. Cette phrase veut dire « Fais un pèlerinage correct et crains de faire un qui n'est pas valable. » Donc c'est tous ces lettres-là qu'on dit « lettre al-qamariya ». Pourquoi ? Parce qu'on dit « il y a « qa » dedans, « al-qamar »,« kha » al-khubz »,« ha » al-hajj »,« ba » al-bab ». On dit « al », on le prononce clairement le « lam » dans « al ». Autre que cela, on dit lettre shamsiya. Parce que ash-shams, on dit pas al-shams, ash-shams. C'est autre que ces lettres-là. Le lam obéit au idram, assimilation, quand elle est suivie d'une lettre shamsiya. Les lettres shamsiya sont autres que al-qamariya. Ash-shams. Lam du nom, il s'agit de la lam sakina présente dans certains noms de la langue arabe et obéit toujours au idhar. Al-mulk. Lam du verbe. Dans le cas où la lettre qui suit le lem est autre que ra ou lem, c'est l'ivhar qui s'applique. Exemple, qul rabbi se prononce qul rabbi. Rabbi. Donc là, il y a idgham. Qur Rabbi. Lam de préposition, même indication que pour la lam du verbe. Règle relative à la mim sakina. La mim sakina est au milieu ou à la fin du mot. À toute mim sakina, trois règles s'appliquent. Irfa shafawi, dissimulation relative shafawi relative aux lèvres. Al-idgham shafawi, donc doublement relative aux lèvres. Al-idhar shafawi, prononciation claire. Al-irfa shafawi, il s'applique quand la mime est suivie de la lettre ba. Et dans ce cas, on a une ghunna, nasalisation. La mime n'est pas totalement vocalisée pour marquer le irfa, le son correspondant à la mime est alors dissimulé. Par exemple, ya'tasim billah, on va le prononcer ya'tasim billah, ya'tasim billah. Donc on va faire un irfa avec une ghunna. Ya'tasim billah. On ne finit pas de prononcer la mime, car on commence à prononcer le ba. On fait une ghunna. Al-idgham al-shafawi, il s'applique quand la mime est suivie d'une autre mime. Là, on fait idgham. La première n'est pas vocalisée, la seconde est vocalisée. On fait une assimilation complète. Exemple. Amanahum min khawf. Se prononce Amanahum min khawf. Donc, mime sakin avec mime avec haraka qui la suit, on fait idgham complet. Amanahum min khawf. On applique une ghunna nasalisation car il y a une mime mushaddada doublée. Amanahum min khawf. Al-idhar al-shafawi, si la mime est suivie d'une lettre autre que mime ou ba, elle est alors prononcée clairement. Lam yalid. Donc on va pas faire de ghunna. Lam yalid. Les trois types de idgham assimilation. Idgham al-mutamathilayn, idgham al-mutaqaribayn, idgham al-mutajanisayn. En arabe, quand deux lettres se suivent, plusieurs cas de figure se présentent. Idgham al-mutamathilayn, c'est le idgham de deux lettres ayant le même makhraj, point de prononciation, et les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire deux mêmes lettres. Exemple, قل لا se prononcera قل لا. Ça devient une seule lettre. قل لا. قد دخلوا قد دخلوا قد دخلوا. Idgham al-mutaqaribayn, c'est le idgham de deux lettres ayant des makhraj, points de prononciation proches, tels que le dal et le sin, ou bien dal et ta. Exemple, قد سمع, on prononce قسمع, قسمع, قسمع. Idgham al-mutajanisayn, c'est le idgham de deux lettres qui ont le même makhraj, point de prononciation général, mais avec des caractéristiques différentes, comme le lam et le ra. قل رب, ربي, قل ربي, se prononce قل ربي, قل ربي. Le tafkhim et le tarqiq, l'emphatisation et la douceur. Définition. Le tafkhim concerne les lettres qui sont graves au moment de leur émission, c'est-à-dire celles qui sont prononcées avec emphase et en remplissant la cavité buccale. Entre dans cette catégorie les lettres de l'isti'la. Kha, sa, dha, ra, ta, qa, dha. Au contraire des lettres de l'estifel qui obéissent au tarqiq, entre aussi dans la catégorie des lettres graves, celles de l'inhiraf, la divergence, dans certains cas, le lam et le ra. Donc, il y a des cas où se prononce avec emphase. Le lam et le ra obéissent au tafrim ou au tarqiq suivant le cas qui se présente. Les règles se rapportant à la lettre ra. Le ra obéit au tafkhim dans les situations suivantes, selon qu'elle est vocalisée en fatha, ra vocalisée en dhamma, ru, sakina précédée d'une lettre avec fatha, sakina précédée d'une lettre avec une dhamma, sakina précédée d'une lettre sakina, sauf ya, précédée d'une lettre avec fatha, sakina précédée d'une lettre sakina, autre que le ya, précédé d'une lettre avec dhamma. Sakina, précédé d'une lettre avec kasra, et suivi d'une lettre de isti'la avec fatha. Sakina, précédé d'une lettre avec kasra, et suivi d'une lettre de l'isti'la avec dhamma. Et là, c'est optionnel, on peut choisir les deux. Tafrim ou tarqiq. Sakina, précédé d'une lettre avec kasra, et suivi d'une lettre de l'isti'la avec kasra. Le ra obéit ou tarqiq dans les situations suivantes, selon qu'elle est vocalisée en kasra. Ri, on va dire. Sakina, précédé d'une lettre avec kasra. Comme fir'aoun. Sakina, précédé de la lettre ya, de prolongation. Ou non, que ce soit ya de prolongation ou non. Sakina précédé d'une lettre sakina, autre que ya précédé d'une lettre avec kasra. Donc reprenons le cas du roi. Donc at-tafrim, emphatique, quand elle a une fatha. Exemple, Rabbana atina wala yundamma yunsaroun yunsaroun. Ou elle a un sukun et avant elle il y a une dhamma ou une fatha. Murdi'ah al-arsh. Ou elle a un sukun et avant elle il y a une kasra, donc kasra 'aridha, c'est-à-dire qui n'est pas nécessaire. Liman irtada liman irtada amir tabu warka'u irji'u. Donc il y a une elle a un sukun et avant elle il y a une kasra non originelle en fait, qui est une kasra pour la prononciation en fait. Ou elle a un sukun et avant elle une kasra originelle, c'est-à-dire nécessaire, et après le ra il y a un harf, une lettre de l'isti'la, le kha, le qa, qui n'a pas de kasra, comme qirtas. Donc avant elle il y a un kasra dans le qi, et après elle il y a une lettre de l'isti'la. Ta, c'est une lettre de l'isti'la mais qui n'a pas de kasra. Qirtas. Donc on fait le tafrim pour le ra. La bil mir sad, la bil mir sad. Ou elle a un sukun d'arrêt et avant elle il y a une lettre qui a un sukun, et avant il y a un dhamma ou fatha. Al-Asr, Al-Shukr. Donc on fait le contraire de Tafrim, Tarqiq. Si elle a une kasra, Wafir Riqab, Al-Gharimin, Al-Fajr, Wal-Fajr, Wal-Fajri. Ou elle a un sukun et avant elle, une kasra originelle. Et qu'il n'y a pas, comme on l'a dit, un harf de l'isti'la après elle, sans kasra. Sinon, ça ferait le tafrim comme on l'a vu. Comme donc, fir'aoun, fir'aoun, miryah. Ou elle a un sukun par rapport à l'arrêt, et avant elle, une lettre avec sukun, et avant une kasra. As-sihr, as-sihr. Et le troisième cas, on peut faire les deux cas au choix, tafrim ou tarqiq. Si elle a un sukun et avant elle, il y a une kasra originelle, et après le ra, il y a une lettre de isti'la avec une kasra. Comme firqin, firqin. Là, donc on peut faire le tafrim, parce qu'il y a la lettre de l'isti'la, et on peut faire le tarqiq, parce qu'il y a une kasra dans le qaf. Donc les règles se rapportant à la lettre lam. Le lam n'est mufakham emphatique que dans le nom de Allah, dans certains cas. En effet, il obéit au tafrim quand le nom de Allah est au début, comme on dit Allahu la ilaha illahu, ou quand le nom de Allah est précédé d'une lettre vocalisée en dhamma ou une fatha. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Yadullahi fawqa aydihim. Et on fait le tarqiq du lam, donc après une kasra. Bismillah, comme quand le nom de Allah vient après une kasra. Bismillah ou lillah. أَفِي اللَّهِ شَكْ. Les règles de prolongation dans le tajwid, donc le mad. La prolongation dans la terminologie du tajwid, le mad signifie l'allongement duré de la lettre concernée lors de son émission, à l'opposé du qasr, raccourcissement en durée. Le mad est dû à la présence des voyelles longues, alif précédé de fatha, waw précédé de dhamma et ya précédé de kasra. Donc le mad consiste au fait d'allonger la lettre pour une durée variable. Elle est de deux types, mad asli et mad far'i. Mad asli, c'est le mad originel. Ce mad est dit originel et naturel car le non-respect de ce mad conduit à une dénaturation du terme, changement. C'est la raison pour laquelle ce non-respect représente un péché de la langue. Donc pour la récitation du Qur'an, donc il faut absolument le mad originel, sinon ça change. Par exemple, qala, si on enlève le mad, ça fait qala. Donc là, c'est obligatoire de respecter pour la récitation du Qur'an. C'est mad de base. Ce mad n'est aucunement suivi ni de hamza, ni de sukun ou shadda. Ce mad s'accomplit par un allongement d'une durée de deux haraka. Donc c'est-à-dire, c'est pas le mad qui est en plus. Donc par convention, une haraka dure le temps de la flexion d'un doigt. Mad far'i. Far'i, c'est en plus, c'est un mad de rajout dérivé du mad asli. Il s'impose par la présence d'une hamza ou d'un sukun après ou avant la voyelle longue. Ce mad s'accomplit par un allongement d'une durée variable. Donc le mad dépendant d'une hamza. Al-mad al-muttasil. Prolongement attaché. La hamza suit le mad asli dans le même mot. Donc la durée, c'est 4 temps. C'est la vie majoritaire chez le récitateur Asim. Exemple. Wassama'a banaynaha. Al-mad al-munfasil. Prolongement séparé. La hamza suit le mad asli de la fin du mot précédent. Durée de 4 ou 6 temps. Exemple. Ya ayyuhannas. Ya ayyuhannas. Al-maddul badal, hamza prolongée. Donc la hamza précède le mad asli dans le même mot. Durée deux temps. Sauf warsh avec deux, quatre ou six. Exemple. Amanu. Maintenant le mad dépendant du sukun. Maddullin, souplesse, s'applique sur le ya ou le waw précédé d'une fatha. Durée de 4 ou 6 temps. 4 ou 6 seulement quand on s'arrête. Exemple, yaoum, yaoum, alayhim. C'est quand on s'arrête. Alayhim. Al-maddul ard lissukun, circonstanciel. S'applique quand la lettre de point d'arrêt, fin de mot, est sakina pour la circonstance, et précédé d'amad, durée de 4 ou 6 temps. Exemple, nasta'in. Al-mad al-lazim, donc le sukun suit le mad asli dans le même mot ou le nom d'une lettre, durée 6 temps. Donc, al-mad al-lazim al-kalimi, dans un même mot, peut être muthaqqal al-lourdi en raison d'un idram intense. La shadda suit le mad. Durée 6 temps. Exemple, comme dans Sourate al-Fatiha. Walad-dallin. Peut-être mukhaffaf allégé, le second suit le mad. Donc situation rencontrée 3 fois dans le Coran avec al-an. Donc 2 fois et mahyay. Durée 6 temps. Al-maddu al-lazim al-harfi, dont le nom d'une lettre. C'est-à-dire les lettres, il y a 14 lettres qui débutent certaines sourates. Il s'applique sur 8 de ces lettres-là, dont l'épellation, le hija, se compose de 3 lettres, dont la deuxième est une lettre de mad et de lin. Waw et le ya. Donc la deuxième lettre est waw ou ya. C'est-à-dire dans la prononciation de cette lettre-là. Il concerne les lettres réunies dans ces deux mots, naqusa asalukum, c'est-à-dire nun, le qaf, sad, ayn, sin, lam, kaf, mim. Il peut être muthaqqal à l'ourdi quand la lettre est assimilée à la suivante. Exemple, alif lam mim. Ou mukhaffaf. Exemple, hamim. Les six autres lettres sont hayyun tahir. Donc ces lettres-là qui composent ces deux mots obéissent au mad asli de temps, sauf le alif qui n'a pas de mad. Donc exemple, taha. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina muhammadin ashrafil mursalin.